rentré du Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre espace d'échange et de partage. Au Maniema, le ministre provincial de l'Environnement plaide pour la protection des perroquets menacés de disparition dans la province. Pour faciliter sa reproduction, Patrick Amissi interdit toute capture jusqu'au mois de janvier prochain. Plusieurs autres espèces rares de la faune congolaise sont souvent victimes des braconnages, notamment les rhinocéros blancs, l'éléphant, l'okapi, les gorilles de montagne. Selon l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ces braconnages professionnels s'observent particulièrement dans les parcs nationaux de Virunga, Salonga, Garamba, la réserve de fauna okapi et refo et le parc national de Upemba. Comment assurer efficacement la protection des espèces rares en RDC? Nous en parlons avec vous au 081-890-4339. Titi Mputu, Nadine Foula, Dieudonné Nyangassa sont à la réalisation de cette émission présentée par Pierrot et la Meiji sous la supervision de Nicole Nkaka, fidèle, les auditeurs. Bienvenue à tous.
À partir du lundi 2 septembre, la grille des programmes de Radio Okapi connaîtra quelques ajustements les après-midi. Découverte et rallongée d'une heure, l'antenne soir débute une heure plus tôt. Retrouvez les thématiques femmes, jeunes, enfants, santé et sur la vie quotidienne. Les infos culturelles, l'extrait zigzag, la chronique totale musique, les réponses à vos questions et de la musique entre 13h et 16h. Heure de Kinshasa, la chronique développement durable et environnement, les offres d'emploi, les infos du site web intègrent désormais l'antenne soir. Radio Okapi, encore plus près de vous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
La ligne 081-890-43-39 est aussi disponible pour vos interventions en direct. Partant de la situation des perroquets qui sont menacés dans la province du Maniema, nous parlons, nous jetons un coup d'œil à la situation des autres espèces qui sont souvent victimes des braconnages à travers le pays, dans nos différents parcs, mais aussi dans les aires et les espaces protégés. Qu'est-ce qui doit être fait efficacement pour assurer leur protection, parce que cela contribue à l'industrie touristique de la RDC? Nous en parlons avec vous, Omar, et ici à Kinshasa. Mais nous avons les auditeurs qui nous ont beaucoup écrit à travers la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Serge Mibenge Berton qui dit ceci: les Congos aujourd'hui ne s'inquiètent pas de la nature, alors que c'est vraiment une forte richesse qu'on doit protéger. Même les animaux, hélas, personne ne pense à ça. Que deviendra le tourisme dans ces pays? Alfred Issaïa à Lulimbi, dans le parc des Virunga, et dit ceci: c'est une bonne initiative que le gouvernement renforce le service de l'environnement pour promouvoir la conservation communautaire, car la majorité de la population ignore l'importance de la conservation de la nature. Notre ami souhaite que les populations locales soient associées à toutes les mesures de conservation de la nature. Omar, vous nous appelez de Kinshasa, dans la capitale. Bonjour.
Bonjour Pierre Lamégier, bonjour à tous les auditeurs de Radio.
Merci d'être avec nous. Nous dégageons ensemble les pistes et les solutions pour arriver à une protection efficace des espèces rares que nous avons au pays. Nous sommes partis du Maniema, comme on l'a dit, par rapport à la capture de perroquets et les mesures prises par les autorités provinciales. Quelle est votre contribution?
Merci beaucoup Pierre. Aujourd'hui, dès le mineur de ma consultation, je voudrais citer un passage biblique dans Proverbe 16:4 qui dit: Dieu a tout pour un but, même le méchant pour les jours du malheur. Ça veut simplement dire même des espèces rares ont été créées pour un but. Ceci veut dire simplement, M. Pivot, que pour préserver l'environnement, Dieu a créé certaines espèces rares qui ne sont pas seulement des valeurs touristiques, mais qui contribuent aussi à la préservation de l'environnement. Mm-hmm. Cela a même été démontré scientifiquement. Je prends le cas des bonobos, qui, au travers de ce qui sécrète, protège l'environnement. Je prends aussi le cas des perroquets. Je ne suis pas environnementaliste, je ne voudrais pas détailler là-dessus. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'humanité tout entière a mis en place beaucoup de textes que les États ont ratifiés pour protéger ces espèces. Je pourrais citer en passant la déclaration de Rio de 1992, la convention de Lugano de 1958, la convention de Maputo, en RDC, notre constitution de l'article 53, les codes forestiers de 2002, la loi que le Parlement a votée en 2009 sur l'environnement et les codes miniers pour ne citer que cela. Tous ces textes que je viens de citer, M. Bureau, obligent à tout homme de ne pas polluer l'environnement et de ne pas supprimer les espèces rares. Et tous celui qui enfreint ces dispositions viole la loi et doit être puni. Mais malheureusement, sur le terrain, nous constatons autre chose. Puisque nous remarquons les pratiques de braconnage, les disparitions abusives des espèces rares telles que les bonobos, les perroquets, les zèbres, les pollutions de l'environnement et que sais-je. Et ça fait mal, M. Perrault. Nous l'avons dit d'entrée de jeu, qu'en voulant protéger ces espèces, l'humanité ou les États poursuivent deux buts. Le premier but, c'est d'assurer la valeur touristique, parce que la loi dit que tout État a droit à ses richesses naturelles acquises. Le deuxième but, c'est que ces espèces ont une importance environnementale très importante. Elles contribuent aussi à protéger l'eau, la terre et l'air de leur façon. Alors, pour protéger l'environnement et préserver ces espèces, qu'est-ce que moi je peux proposer? Premièrement, M. Pirot et la Mégie, conformément à l'article 53, à l'alinéa 3 de notre loi fondamentale qui est la Constitution, l'État congolais doit veiller à la protection de l'environnement et à la santé de la population, ainsi qu'à la santé de ces espèces rares qui sont d'une importance touristique non mesurable. Ceci passe par une vulgarisation des lois environnementales et par une sensibilisation de la population quant au bien fondé du respect. Une chose est de vulgariser un texte, une autre chose est de dire aux citoyens quel est le bien fondé du respect de l'environnement. Deuxièmement, les gouvernements, via les ministères de l'environnement, ne doivent pas considérer l'environnement comme une simple information, mais ça doit désormais devenir une éducation environnementale. Et cela à tous les niveaux. Au niveau de l'école primaire, de l'école secondaire et de l'université dans toutes les facultés, on doit inculquer aux citoyens les valeurs environnementales, faire comprendre aux gens que sans l'environnement sain, la vie n'est pas possible. Et cela inculquerait les systèmes environnementaux et on éviterait ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que souvenez-vous qu'une personne peut violer la loi, soit par mauvaise foi, soit encore par ignorance. Et si aujourd'hui beaucoup d'espèces sont disparues, d'autres les font parce qu'ils ne savent pas leur importance. Et pour finir, M. Pirot et la Mégie, la population que nous sommes doit être consciente. Martin Luther King, j'aime beaucoup le citer, disait: ce qui importe, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est plutôt l'indifférence des justes. Nous ne devons pas seulement être là pour critiquer ceux qui gouvernent mal, nous avons aussi une part de responsabilité. Alors, cela passe par le respect des normes environnementales. Tout le monde sait que tuer un bonobo, tuer un okapi, tuer un perroquet ou le faire disparaître a des énormes dégâts environnementaux. Alors, le mieux serait de penser aux générations futures.
Merci beaucoup, Omar. Merci beaucoup, Omar. Vous avez d'abord fait voir qu'il y a beaucoup de textes juridiques dans ces domaines, partant de plusieurs conventions jusqu'aux lois de notre pays qui assurent la protection de l'environnement, la protection de ces espèces rares qui ont une importance capitale sur l'équilibre au niveau de l'environnement. Mais il y a trois pistes de solutions que vous dégagez pour y arriver. La première chose, c'est d'abord l'État qui doit veiller à la protection de l'environnement et organiser la protection de ces espèces. Mais il faut aussi vulgariser les textes juridiques qui régissent les domaines de l'environnement et sensibiliser la population. Si on dit à la population qu'il y a la loi, c'est mieux, mais il serait aussi, c'est bien, mais il serait aussi mieux de leur dire, de leur présenter l'importance de protéger ces espèces. Mais il faut aussi intégrer les notions de l'environnement dans l'éducation d'une manière globale, que ce soit au niveau de l'école primaire jusqu'à l'université. Enfin, il faut conscientiser la population sur l'intérêt de ces espèces, de tous ces animaux dans leur vie. Merci beaucoup, Omar. Sylvain, vous êtes à Bounia. C'est en province orientale. Bonjour, Sylvain.
Bonjour, Pierrot. Bonjour à notre invité, mais bonjour aussi aux auditeurs de la radio Capi, aux auditeurs
Oui, oui, Sylvain, vous avez parlé de l'invité. Je crois qu'on a des difficultés avec d'autres réseaux de téléphonie pour joindre l'ICSN avec on était en discussion depuis hier. Mais là, on a un problème de coordination au niveau de ligne téléphonique. Hein. Vous savez qu'il y a des numéros qui ne passent pas. Ça nous a posé beaucoup de problèmes. Mais on espère encore que ça peut se décanter d'un moment à l'autre hein, pour qu'on puisse associer aussi à cette réflexion l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Mais en attendant, quelle est votre proposition, Sylvain?
Bien, Pierrot, la première des choses que je dois dire, c'est de remercier la Radio Okapi hein, par rapport au... Vous savez qu'aujourd'hui, les gouvernements congolais, ou surtout les Congolais, partent en concertation nationale, mais on n'a pas inscrit à l'ordre du jour des concertations nationales la question de l'environnement, la question de l'écosystème congolais. Or, aujourd'hui, tous les universitaires congolais qui sont dans les pays, dehors du pays, attendent que cette question ressorte dans la question de la gestion de la République. Et aujourd'hui, nous avons vu les consultations nationales se taire sur la question. Ça, c'est d'abord une de mes interrogations. Mais qu'est-ce que je dirais, Thiro? Je suis en Ituri et je vous appelle à partir de Bounia.
Oui.
En Ituri, nous avons le site touristique Les Moblés. Il y a aussi le Mont Oyo. Il y a la zone A de Ndjougou qui couvre tout l'espace des forêts et des gibiers. Mm-hmm. Nous avons la zone B à Mangui, forêt et gibier. Nous avons la zone A à Arou qui couvre aussi l'espace forestier. Et tout ça, ça devait regorger de quelque chose à ce qui concerne les richesses de l'Ituri.
Mm-hmm.
Je me pose une question, M. Pierrot, et mes analystes répondent, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le gouvernement fait sur le plan et gestion de l'écosystème en Ituri, à ce qui concerne la gestion des ressources forestières de l'Ituri. Puisque nous avons des espaces en Ituri qui devaient rapporter autant d'argent comme ça rapporte au Kenya, comme ça rapporte aux États-Unis, en Chine, au Rwanda et en Afrique du Sud. Puisque les pays que je viens de vous citer, ils gagnent plus de 30% de leur budget national dans le tourisme. Mais qu'est-ce que le Congo gagne dans le tourisme? Rien. Ça, c'est un problème. Aujourd'hui, le Congo a focalisé son économie sur la gestion des ressources minières. C'est grave. Alors que la ressource agricole, la ressource environnementale, la ressource touristique est mise à genoux. Je pense que cette émission me permet de donner une recommandation au gouvernement congolais de pouvoir entreprendre de grandes recherches avec tous les universitaires, les grands chercheurs dans le domaine du tourisme, à ce que des fonds importants soient déployés pour que les ressources touristiques soient prises en considération et que soient incluses dans le budget de l'État congolais. Puisque aujourd'hui, nous avons une contrainte. La contrainte sécuritaire. Si le Congo est un pays paisible, où tous les citoyens du monde pourraient entrer dans le Congo, juste pour visiter les diversités culturelles, les diversités touristiques du Congo, nous n'aurons pas de problème à ce qui concerne le financement des actifs du gouvernement.
Monsieur
Pierrot, j'ai conclu à dire ceci.
Et rapidement, oui.
J'ai conclu à dire ceci. Que le gouvernement revoie sa politique générale. Mais que le gouvernement prenne le secteur primaire, les économistes de formation, le secteur primaire dans lequel on trouve l'agronomie, on trouve l'agriculture, dans lequel on trouve le tourisme, dans lequel on trouve l'agriculture, pour que le Congo se redresse.
Merci.
Et le tourisme est important à telle enseigne que ça pourrait même donner 40% du budget national. Merci, M. Pierrot.
Merci beaucoup, Sylvain, pour toutes ces propositions, aussi beaucoup d'inquiétudes. Hein, mais vous avez quand même tracé clairement la ligne, hein, ce qui doit être fait au-delà du fait qu'on puisse avoir toutes ces potentialités. Mais vous vous inquiétez, vous ne sentez pas une politique bien définie en matière environnementale pour voir comment les ressources environnementales et touristiques peuvent contribuer au budget de l'État. C'est votre souhait pour l'avenir. Cela se doit pas passer par une politique bien définie clairement, mais il y a aussi votre remarque, c'est que vous ne voyez pas dans les thématiques des concertations nationales la question environnementale, la question de l'écosystème figurer en priorité. C'est votre souhait d'ailleurs. Merci beaucoup Sylvain. Nous avons Maître Machaka qui nous appelle de Lubumbashi au Katanga. Bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capé.
Si on écoute les uns et les autres, des fois on se plaint, c'est vrai, on a des potentialités touristiques, on a des espèces rares, on se plaint, le gouvernement doit vraiment organiser les secteurs pour protéger tout cela. Mais quand vous écoutez les uns et les autres, Maître, efficacement, qu'est-ce qui doit être fait? Parce qu'on a besoin quand même de ces ressources, comme l'a dit tout à l'heure notre ami Sylvain. Qu'est-ce qui doit être fait efficacement, Maître Machaka?
Merci beaucoup, M. Perrault, de m'avoir accordé cette opportunité. Vous savez, M. Perrault, notre gouvernement ne doit pas seulement commencer à donner beaucoup d'importance aux ressources minières et consorts. Même les espèces rares, là, M. Perrault, ce sont des produits qui peuvent nous produire beaucoup de revenus dans notre pays. Ce que moi, je peux demander à notre gouvernement, M. Perrault, c'est de bien encadrer d'abord les personnes là qui s'en chargent de la garde ou de la sauvegarde de ces espèces rares là. Vous savez, aujourd'hui, lorsque on prend une mesure d'interdiction de commercialisation de certaines espèces rares, dans notre pays, c'est le contraire. Maintenant, ces gens là qui font la garde de ces histoires là maintenant, c'est eux qui s'enrichissent maintenant. Puisque pour faire sortir ces histoires, ça devient avec beaucoup de magouilles. Il faut bien encadrer les encadrer de ces espèces rares, ça, c'est la première proposition que je pouvais proposer comme des mesures de sécurité, puisque quelqu'un qui est impayé, M. Pierrot, et c'est celui qui garde les espèces rares, comment est-ce qu'il aura cette conscience-là de bien garder ces espèces rares-là? Mais s'il est bien traité, je crois, il aura un peu de conscience et il va bien préserver son boulot. Ça, c'est ma première proposition. Ma deuxième proposition, M. Pierrot, quand j'ai suivi la décision du ministre provincial du maniement interdisant la commercialisation des perroquets, vous savez aujourd'hui, est-ce que le ministre là ou bien les services d'environnement du maniement ne sait même pas le nombre de perroquets qui se trouvent en brousse présentement? Ce que moi je peux leur proposer, c'est de créer les systèmes de coopératives dans les endroits où il y a ces gens-là qui attrapent les perroquets. Qu'est-ce qu'ils pouvaient leur proposer, M. Pierrot? Ils doivent chercher d'abord un endroit où ils peuvent commencer à conserver ces perroquets-là. Les conserver dans quel sens? Il dit par exemple aux chasseurs-là des perroquets qui est, et après avoir planifié, c'est que cette année-ci, nous devons avoir, par exemple, 200 perroquets ou bien 300 perroquets dans notre faune ou bien l'endroit où ils peuvent se réserver pour conserver les perroquets. Comme ça, ils proposent à ces gens-là que nous avons besoin d'autant de perroquets et ils achètent ces perroquets-là à un prix-là dérisoire, de sorte qu'il ait seulement le contrôle d'un certain nombre de perroquets par an. Puisque ce qui se multiplie dans les forêts, notre gouvernement ne sait pas. Ce qu'il pouvait contrôler, c'est ce qu'il pouvait commencer à acheter dans les mains de ces attrapeurs-là des perroquets, et il sait comment les contrôler. À ce moment-là, il pouvait même ouvrir un marché officiel pour la vente des perroquets. Il sait que comme on a 500 perroquets cette année-ci, nous devons vendre par exemple 50. Ces 450 là, restez dans notre
merci beaucoup, maître.
C'est ce que moi je vais proposer pour notre gouvernement.
Merci, maître. C'est une très bonne proposition. Vous proposez d'abord l'encadrement des gardes parcs qui sont employés par l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Vous souhaitez qu'ils soient mieux encadrés, mieux équipés. Comme ça, ils ne pourront pas contribuer au braconnage ou soit contourner les mesures pour pouvoir décimer ou soit détruire ces espèces rares. Vous souhaitez qu'ils soient mieux encadrés, mieux équipés. Mais par rapport, par exemple, à la situation de perroquets au Maniema, vous souhaitez même que l'État puisse créer une zone, n'est-ce pas, de conservation de ces perroquets, dans le sens où l'État peut demander à ceux qui chassent les perroquets, chaque fois qu'ils viennent vendre ça à l'État, l'État remet ça dans la nature, et ça permet même de contrôler le flux pour savoir quelle est la population aujourd'hui des perroquets que nous avons dans notre pays, et ces chasseurs s'organisent en en coopérative, ils sont encadrés par l'État, dans le sens où on peut contrôler la production, la reproduction, disons, des perroquets et savoir quelle quantité peut être commercialisée par rapport aux besoins. Merci beaucoup, Maître Machaka. John Etalikasi, Jean-Claude Etalumbashi, nous allons vous accorder la parole après. Je rappelle encore que nous faisons le point sur la conservation de la nature dans le cadre de la protection des espèces rares. Tout est parti de Maniema où le ministre provincial de l'Environnement a interdit la capture des perroquets jusqu'au mois de janvier pour permettre leur reproduction. Partant de cela, qu'est-ce que vous proposez pour lutter efficacement contre les braconnages et autres actes qui déciment les espèces rares? 081 890 43 39.
Parole aux auditeurs.
John, vous êtes à Likasi, dans la province du Katanga. Bonjour.
Bonjour, bonjour M. Pierrot, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent à ce moment.
Vous avez suivi les propositions d'Omar de Kinshasa, Sylvain de Bounia et Maître Machaka qui ont, les deux, ont parlé plus de l'État. C'est Sylvain et Maître Machaka, le rôle de l'État dans cette protection des espèces rares. Mais Omar aussi a associé la population à cela, bien sûr, avec des sensibilisations pour voir comment protéger tout cela. Quelle est votre proposition, John?
Bon, moi je trouve que nous, population congolaise, on pouvait d'abord se demander pourquoi les Européens quittent l'Europe pour venir parler de la nature ici en Afrique, précisément ici au Congo. Donc cette question pouvait peut-être nous faciliter, nous Congolais, responsables de cette richesse. On a au moins au total 7 parcs, mais... Tous les 7 parcs là, quand vous constatez des fois, il y a des gardes de chasse, les soi-disant gardes de chasse qui sont dans chacun des parcs. Mais quand ils sont, par exemple, le gouvernement dit que non, voilà, on arrête un peu à chasser, ce sont les mêmes gardes de chasse là qui autorisent la population d'aller chasser à condition que cette dernière ici puisse donner quelque chose aux gardes de chasse là. On a par exemple dans le domaine de la pêche, le gouvernement parle de la fermeture, mais toutefois la fermeture, comme le terme l'indique, n'est pas respectée. Vous verrez que ce sont même les agents là que le gouvernement envoie, ce sont les mêmes agents là qui autorisent en coulisses là la population de pêcher. Bon, et puis les agents sont là-bas. C'est pour dire que les grands problèmes qui se posent, le gouvernement doit voir les critères, quel genre de personnes qu'il faut envoyer. Donc, ces agents-là ne sont pas... Donc, le gouvernement n'a pas des agents-là compétents dignes d'exercer leurs fonctions comme il se doit. Bon, comprenez, le gouvernement t'envoie dans une mission, bon, mais vous faites autrement des recommandations qu'on vous a données. Et à la fin, la population dit que le problème, c'est le problème du gouvernement. Or, le gouvernement ne fait pas ceci, cela. Or, le problème, ce sont ces agents-là qui sont envoyés, comme ils sont peut-être affamés. Ils ne sont pas satisfaits de leur salaire. Ils veulent avoir plus seulement. Ils ne veulent pas conserver leur richesse naturelle.
Merci John. Voilà.
Est-ce que désorienter les choses?
Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup John. Vous dites d'abord, il serait mieux qu'on puisse prendre conscience le fait d'abord que quelqu'un parte de l'Europe, des États-Unis, pour venir insister sur la protection de nos espèces, ce qui veut dire qu'il y a une grande importance. Et les Congolais devaient d'abord commencer par se demander pourquoi les autres s'intéressent à ces espèces et demandent leur protection. Et au-delà de tout, il faudrait beaucoup d'encadrement pour les gardes-parcs. Vous avez donné des exemples avec la fermeture, par exemple, des lacs ou des fleuves pour la pêche. Ce sont les mêmes personnes qui sont censées faire exécuter les mesures sur terrain qui, en coulisses, font passer les gens pour pratiquer de la pêche. Et là, il faut vraiment sélectionner des personnes avec, sur base des critères qu'il faut. Comme ça, ils pourront travailler pour protéger les parcs, protéger les espèces sans contourner eux-mêmes la loi pour la violer. Merci beaucoup, John. Jean-Claude, vous êtes à Lubumbashi. Au Katanga. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Monsieur Pierrot.
Nous dégageons ensemble les pistes de solutions pour que nous puissions arriver à une protection efficace de nos espèces. Vous avez suivi beaucoup de propositions déjà depuis le début de cette émission. Quel est votre point de vue?
Oui Monsieur Pierrot, je voudrais d'abord vous remercier pour
cette émission. Je pense que beaucoup des intervenants ont essayé de donner leur point de vue. Mais moi, je m'aimerais peut-être tirer deux choses. Oui, la première est que nous devons, c'est vrai, nous poser des questions de savoir pourquoi est-ce que les autres tiennent chez eux. Pourquoi est-ce que les autres domaines fonctionnent normalement, à merveille, donc disons, pour ne pas dire à merveille, ailleurs, sous les autres cieux. Mais pourquoi pas chez nous? Donc il y a d'abord un problème de non-respect des textes légaux. Vous savez, à ma connaissance, je pense qu'un État vraiment digne de ses noms fonctionne sur base des textes. Nous avons des institutions qui apparemment fonctionnent normalement, mais il y a des choses qui ne marchent pas du tout. Ça, je vous dis, peut-être que j'ai des connaissances un peu partielles sur l'environnement, mais je suis un peu bien calé dans le domaine, par exemple, de la circulation routière. Là, vous voyez, c'est toujours le même problème. Donc, c'est un problème généralisé maintenant de tout Congolais. On dirait une sorte de manie. Donc, on dirait un virus qui est dans le corps. Mais l'État, qu'est-ce qu'il devait faire? Moi, je pense que l'État, premièrement, devait penser d'abord à encadrer les textes légaux. Parce qu'aujourd'hui, nous nous disons qu'on ne respecte pas la nature. Et pourtant, il y a des textes, n'est-ce pas, sur la conservation de la nature. Donc, il y a des textes dans les domaines de l'environnement. Donc, presque dans tous les domaines, il y a des textes légaux. Est-ce que nous le respectons? Moi, je pense que l'État devait d'abord s'atteler à faire respecter les textes. Si tout citoyen congolais pouvait arriver à respecter les textes, moi, je pense que ce sera vraiment une bonne chose. Nous voyons, aujourd'hui, il y a le virus qui est entré même dans les universités, plus particulièrement l'université de Lubumbashi, où les gens qui travaillent avec leur tête n'ont pas accès à des promotions, normalement. Il y a des histoires qui se collent. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. La deuxième chose, moi, je pense que c'est un problème de tout Congolais.
Oui.
Nous devons faire un effort pour essayer d'aider aussi notre État congolais. Donc, c'est comme, par exemple, moi, dans notre domaine de la circulation routière, j'ai vu qu'il n'y avait pas de sensibilisation. Nous avons créé une ligue pour la sécurité et la prévention routière. Donc, question d'aider un tout petit peu l'État dans la sensibilisation, dans la formation des conducteurs, parce que nous avons vu que l'ignorance tuait vraiment, donc c'était l'ignorance qui était à la base de beaucoup de choses. Donc, nous avons créé une ONG, SOS Route, donc la Ligue pour la Sécurité et la Prévention routière. Et dans ce domaine-là, si des gens pouvaient aussi peut-être se prendre en charge, comme disait Mouzé Laurent, Désiré Kabila, donc prenez-vous en charge, ils essayent aussi de s'organiser pour sensibiliser tant soit peu la population concernée, pour qu'ils essayent un peu de respecter les perroquets, qu'ils respectent les animaux, mais pas des animaux rares, je pense que ce sera vraiment...
Merci. Merci beaucoup, Jean-Claude. Oui, merci beaucoup, Jean-Claude. C'est important ce que vous avez dit. Le premier problème aujourd'hui, c'est le non-respect des textes légaux qui existent. Il y a notre ami Omar, au début de l'émission, a même aussi nous a présenté des instruments internationaux par rapport à la protection de l'environnement, des espèces que nous avons, mais les lois aussi du pays, y compris la Constitution. Vous pensez que le premier problème aujourd'hui, c'est le non-respect des textes légaux? C'est là qu'il faut d'abord faire la lutte, que les gens parviennent à respecter la loi. Et deuxièmement, il ne faut pas seulement que la population puisse accuser l'État, mais la population peut aussi s'organiser pour appuyer l'État. Par exemple, en ce qui concerne la sensibilisation sur le respect de l'environnement, la protection de ces espèces, vous, dans votre domaine de circulation routière, vous avez vu qu'il y a un déficit de sensibilisation. Et vous avez créé une structure aujourd'hui qui appuie l'État dans la formation des chauffeurs, dans la sensibilisation par rapport au domaine de circulation routière. Merci beaucoup, Jean-Claude, pour cette proposition. Ruth, vous êtes à Kisangani, on va vous accorder la parole. Mais nous avons aussi le message de Ribot Tanamaku qui nous a écrit dans la province de Bandundu. C'est bien que le ministre provincial de l'Environnement au Maniema ait pris cette décision. Parfois, ce sont les gens qui font les trafics d'influence qui contournent la décision des autorités qui eux-mêmes ont pris la décision. Mais quand il s'agit de trafic d'influence, on foule cette décision au pied. Et grâce à Balemba, dit ceci, les premiers pas vers le passage à l'acte sont d'abord la prise des consciences. Pour lui, Il pense qu'il faut d'abord qu'au niveau du pouvoir public et au niveau de la population, qu'on prenne d'abord conscience que nous avons des espèces qui sont menacées d'extinction. Quand on aura pris conscience, on pourra maintenant s'engager pour voir comment mettre des mesures efficaces. Et aussi longtemps qu'il n'y a pas une prise de conscience, on n'aura pas des mesures efficaces pour protéger ces espèces. Théophile Kamate dit ceci: je crois que l'État doit prendre en main ses responsabilités et surtout appliquer à la lettre les décisions prises. En d'autres termes, il faut un suivi par rapport à ce qui se passe. Comme on a pris la décision au maniement, il faut aller sur le terrain, voir s'il n'y a pas des gens qui contournent la loi pour pouvoir capturer ces perroquets et les commercialiser avant la date fixée par l'autorité. 081 890 43 39.
Le débat politique, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiookapi.net.
Parole aux auditeurs.
Ruth, vous nous appelez de Kisangani en province orientale, bonjour. Ruth, vous êtes avec nous, bonjour. On a perdu Ruth de Kisangani, nous retournons dans la capitale, confiance, vous êtes avec nous sur les antennes, bonjour.
Bonjour, Mbote Jambo à tous les occupants de la radio de la paix.
Merci beaucoup. Vous avez suivi les compatriotes par rapport à cette question qui est d'une importance capitale sur la protection de nos espèces rares. Votre contribution.
Oui, en fait, je suis très content du sujet abordé, mais j'aurais souhaité que, pour moi personnellement, que la mesure ne soit pas prescriptible. J'aurais souhaité que cette mesure ne soit pas temporaire. Moi, je voudrais que l'interdiction soit définitive. Parce que en réalité, nous sommes le poumon mondial en matière environnementale, mais curieusement, nous n'y investissons pas assez. J'aurais souhaité que le gouvernement s'investisse. Parce que à faire l'analyse, on peut juste réunir beaucoup de spécialistes, on se rendra compte que ce que nous pouvons gagner en conservant l'environnement est plus que ce que nous pouvons perdre en détruisant l'environnement. Donc moi, j'aurais souhaité que parmi les projets du gouvernement, parmi tout ce qu'il y a comme sensibilisation, qu'on pense à la conservation de la nature. La mesure, pour moi, ne devrait pas être limitée dans le temps, qu'elle soit définitive. Et cela pour toutes les espèces, même celles qui ne sont pas en perte. J'aurais souhaité que tout soit ça. Que tout soit conservé.
Voilà. Merci beaucoup, confiance. Vous auriez souhaité qu'au niveau de la province de Maniema, qu'on ne puisse pas interdire d'une manière temporaire la capture des perroquets, mais qu'on puisse, que ce soit une mesure définitive. Désormais, on ne doit pas capturer les perroquets ni les vendre et permettre à ce qu'ils puissent se reproduire. Et quand ces perroquets se reproduisent, ainsi on a cette richesse environnementale. Mais vous avez dit, le problème aujourd'hui pour vous, nous sommes un poumon mondial, comme on l'a dit, mais vous ne voyez pas un investissement à fond au niveau du pouvoir public pour investir dans ces secteurs de l'environnement et confirmer effectivement que nous sommes le poumon mondial, c'est ça votre souhait, et qu'on puisse interdire carrément la capture et la commercialisation des autres espèces pour permettre à ce que nous puissions profiter de ces ressources, comme l'a dit notre ami Sylvain qui nous a appelé de Bounia dans cette émission, qui a souhaité qu'on puisse avoir, pourquoi pas 30% du budget national, les ressources qui peuvent provenir de l'industrie touristique. Merci beaucoup. Nous avons aussi le message de Shiza Chamyungu. Il dit ceci: on peut protéger les perroquets alors que le rebelle Morgan extermine les okapis en province orientale. Voilà, c'est qui, cette information, vous savez, c'est la réserve la réserve de Fora Okapi qui a été sérieusement massacrée, vous rappellerez bien, par un groupe armé dirigé par le rebelle Morgan, comme il le dit. Pourquoi penser aux perroquets et les laisser lui menacer les autres espèces du côté de la province orientale? Le souhait de notre ami Jivis, c'est de voir vraiment l'État s'est penché aussi sur ces cas. Marcel, vous êtes à Kisangani en province orientale. En attendant, nous lisons le message reportage de Joël Mbia Kaninda qui est dans la même ville. Hein. La meilleure façon de protéger nos espèces, c'est d'interdire toutes sortes de captures des espèces rares. Il a raison, confiance, qui pense qu'on ne doit pas avoir des mesures temporaires, mais les mesures définitives en ce qui concerne ces espèces. On vous écoute, Marcel, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste et à tous les auditeurs de la radio Capti.
Quelle est votre contribution?
Je pense que la protection de l'environnement en général et des espèces rares en particulier est une bonne chose. Et la protection, justement, à mon avis, passe par la prise de mesures qui s'imposent, et cela par les autorités habilitées ou chargées en la matière. Et ce n'est pas par manque de dispositions impératives dans ces pays. Je crois que mes prédécesseurs ont pu quand même énumérer au niveau international les instruments qui protègent, qui visent la protection de l'environnement et aussi au niveau national. Mais comme on a toujours dit, le mot qui ronge ce pays ou la société congolaise, c'est que le Congolais est un bon législateur, mais il n'est pas un bon exécutif. C'est-à-dire, toutes les fois que les mesures sont prises, mais sur le terrain, ces mesures ne produisent pas des effets, parce que souvent les autorités chargées de les appliquer, soit ne les appliquent pas, pour des raisons ou d'autres, soit seulement parce que avec tout ce que nous connaissons, le clientélisme, le népotisme, le tribalisme, la territoriale des originaires, donc hésite simplement à faire appliquer ces dispositions. Et donc, comme proposition, moi je pense que nous devons non seulement nous atteler à prendre de telles décisions, le gouverneur de la province du Maniema, pour avoir encore une fois tenté de prendre ce courage, mais il doit continuer sur cette voie et faire en sorte que partout ces mesures s'appliquent véritablement. Cela en mettant en place des commissions de suivi et qui seront justement composées de personnes indépendantes de l'administration, et c'est-à-dire qui n'auront pas de parti pris, et aussi faire en sorte que l'application de cette mesure ne soit pas comme notre ami de Kinshasa, je ne sais pas, de tout à l'heure venait de dire que le champ de l'application soit sur l'ensemble du territoire national. Cela, à ce qui concerne les dispositions prises par le ministère de l'Environnement, le ministère national, bien sûr, le gouvernement central, et que cette mesure ne soit pas temporaire, à une date plus courte, mais plutôt une date moyenne ou longue à long terme. C'est-à-dire, on peut dire, voilà, pendant 5 ans, toutes les espèces rares ne seront plus capturées ou tuées, sinon le braconnier ou le chasseur qui seront pris dans ces sacs-là seront passibles à des sanctions pénales. Et dans ce sens, ça pourra justement permettre l'accroissement des espèces que nous dédions tant pour ces pays et qui font surtout l'objet du tourisme et qui peuvent aussi nous faire en sorte que nous attirions les touristes, les visiteurs qui viendront au pays pour que nous amassions aussi
et beaucoup des ressources financières.
De l'argent renfloué dans la caisse de l'État.
De l'État. Merci beaucoup, Marcel. Le problème aujourd'hui, vous l'avez dit, quand on met, on y mélange le clientélisme, vous avez parlé de la territoriale des originaires, vous avez parlé du népotisme, le tribalisme, le trafic d'influence, voilà autant d'états qui font qu'on ne parvienne pas à appliquer les textes juridiques qui régissent les secteurs de la protection de l'environnement. Et vous pensez que toutes ces mesures qui s'imposent pour qu'elles soient efficaces sur le terrain, dans les comités des suivis, on doit avoir des gens qui ne font pas partie de l'administration, bien sûr, hein, dans le domaine. Comme ça, ça pourra rendre les contrôles efficaces. Mais enfin, il faudrait avoir une interdiction à long terme, si on peut dire que dans 3, 4, 5 ans, on ne doit pas ni capturer, ni commercialiser les perroquets. Cela peut permettre à ce qu'on puisse évaluer la population. Vous vous rappellerez avec les éléphants qui étaient partis il y a 2-3 ans. On en était à 150, à plus de 100 000. On est retombé à 35 000 selon l'ICCN il y a 2 ans. Vous vous rappellerez de la population des rhinocéros blancs. Voilà, les okapis n'en parlons pas. Tout cela, il faudrait deux moments d'observation avec l'exécution des mesures sur terrain pour voir comment évaluer leur population. Merci beaucoup Marcel. Rachel, vous êtes à Isiro, Radiabou est à Kindou, mais nous avons aussi le message de Toussaint Louverture qui dit ceci: pour ma part, il serait mieux, et la solution serait d'abord de connaître ce qui est à la base de la capture de ces perroquets. Et alors, on saura maintenant mettre en place des mesures pour décourager les acheteurs et les vendeurs. C'est ce que propose notre ami Toussaint. Et là, vous rappellerez aussi la proposition de notre ami Maître Machaka, qui pensait qu'il fallait à un certain moment avoir des coopératives dans lesquelles on inclut, bien sûr, les chasseurs, et voir comment ils pouvaient donner leurs produits à l'État, et l'État puisse faire une réserve de conservation des perroquets. Et comme ça, les chasseurs peuvent être encadrés et convertis à autre chose. Merci beaucoup pour toutes ces propositions. Rachel, vous êtes à Isiro, bonjour.
Allô, bonjour.
On vous écoute. Qu'est-ce qui doit être fait, Rachel?
Oui, premièrement, ce que je dégagerais d'abord comme piste de solution, c'est d'abord la sensibilisation. Mm-hmm. Vous savez, mais c'est à sensibiliser les gens, à leur montrer donc des conséquences et l'importance que ces espèces sont dans notre pays. Vraiment. Ça remet les gens tout droit. Les gens comprennent mieux que de passer là des autres histoires. Et autre chose que je voulais dire, c'est de bien sécuriser donc les parcs là où il y a toutes les espèces. Pas seulement bien sécuriser, mais bien aussi rémunérer les gens qui garderont le parc. Parce qu'avec l'argent, tout est possible. On peut venir payer seulement ces gens-là qui gardent le parc et il faut capturer le perroquet comme on est en train de le faire. Mm-hmm. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est de passer de sensibiliser les gens à toutes les langues et pas seulement dans des grandes villes, de le faire partout, auprès de partout vraiment, mm-hmm. et pour mieux faire comprendre aux gens et que les gens puissent mieux comprendre aussi et qu'ils puissent donc échanger les gens-là prendre la responsabilité de protéger l'environnement. C'est mm-hmm. ça.
Merci beaucoup Rachel. Ça veut dire qu'il faut, on peut dire, des larges campagnes de sensibilisation sur l'environnement, sur les espèces, comment les protéger, comment impliquer la population. Il faut des vastes campagnes de sensibilisation. Mais au-delà de la sensibilisation, parce qu'il y a le braconnage qui s'est fait, quand on voit par exemple les difficultés dans la province du Nord Kivu, dans le parc de Virunga et d'autres réserves qui sont en proie à l'insécurité par les groupes armés. Et là, il faut des mesures draconiennes de sécurisation de ces espaces-là et à la fin encadrer les gardes-parcs pour éviter qu'ils ne soient tentés de pouvoir contourner la loi pour commercialiser les espèces qui sont sous leur responsabilité dans les parcs. Merci beaucoup Rachel. Radjabou, vous êtes à Kindou dans la province de Maniema. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Et je dis aussi bonjour aux autres militaires qui m'écoutent en ce moment.
On a des petits soucis. Oui, Radjabou, s'il vous plaît, si vous pouvez vous déplacer un tout petit peu pendant ce temps. Nous allons d'abord accorder la parole au docteur Richard Kétissia, qui de toute façon va revenir à vous. Le temps que vous puissiez voir avec la réalisation, comment vous repositionner un tout petit peu pour améliorer un peu votre qualité de la ligne. En attendant, on est à Kinshasa avec docteur Richard, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les éditeurs et à tous les intervenants qui ont parlé avant moi.
Et en partant de la situation au Maniema, comment on peut, et d'une manière efficace, assurer la protection de nos espèces rares?
Merci beaucoup. Je crois, pour l'introduction, je salue la mémoire du feu maréchal Mobutu Sese Seko qui a parlé du haut de la tribune de l'ONU de la conservation de l'environnement et de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, pour appuyer tous ceux qui ont parlé, je voudrais dire que nous ne devons pas trop nous accoler aux lois qui sont devenues des lettres mortes, parce que ceux qui peuvent les vulgariser sont les juristes, ils se taisent, ils se battent peut-être pour des postes, etc., etc. Et puis, les pédagogues doivent aussi chercher à nous aider à intérioriser ces lois en deux ou trois lignes. Et enfin, les gestionnaires des cités, je parle là des chefs de rue, chefs de quartier, des bourgmestres, des gouverneurs, doivent en faire une matière d'éducation et d'encadrement du peuple que une matière pour réprimer, c'est-à-dire on présente d'abord la loi, la chicotte, etc., etc., afin que la population s'approprie la gestion des espèces rares. Et puis, pour terminer, il faudrait aussi que le ventre ne soit pas affamé, parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Ceux qui vendent ces histoires savent que c'est notre richesse. Et eux n'ont rien pour aussi avoir d'autres richesses pour se nourrir, envoyer les enfants à l'école, etc. Ils mettent la main, comme on dit, dans leur propre assiette naturelle. Donc, il faut que les équilibres permettant à la population d'avoir un social honorable puissent être aussi regardés. Sinon, ventre affamé n'a point d'oreille, personne n'écoutera. Oui, et ça provoquera aussi d'autres problèmes.
Merci beaucoup, docteur Richard. Il ne faut pas rester attaché aux lois que personne ne connaît pour vous. Et d'ailleurs, il serait mieux qu'on puisse rendre ces lois plus simples hein, au niveau du quartier, au niveau des écoles, au niveau plus près de la population, plus près des communautés. Les chefs des quartiers tous pouvaient travailler pour sensibiliser la population, vulgariser les textes qui existent par rapport à la protection de l'environnement. Mais au-delà de tout, il faut aussi lutter contre les inégalités sociales pour que ceux qui se sentent des fois lésés dans l'extrême pauvreté ne puissent recourir aux réserves pour pouvoir chercher leur survie ou puiser, comme vous l'avez dit, dans la casserole naturelle, c'est qui peut leur permettre de survivre. Si on peut avoir la lutte contre l'inégalité sociale, ça peut aussi contribuer à la protection. Merci beaucoup, docteur Richard. Nous avons Radiabou qui est en ligne maintenant et Makassia Kisangani. On lit ce message rapidement. Joël Baatilo qui nous écrit depuis Kisangani. La meilleure façon de protéger les espèces rares en RDC, c'est de lutter contre la corruption et mettre à la disposition des agents de service de la protection de l'environnement, des moyens nécessaires, des contrôles, car on constate parfois même lorsqu'il y a fermeture de la chasse pour permettre la reproduction de certaines espèces, il y a toujours ces animaux sur le marché, ce qui prouve qu'il y a corruption ou un manque ou insuffisance des moyens de contrôle. Makassi Radiabou, on va vous accorder la parole.
Parole aux auditeurs.
Je crois bien votre ligne, ça va maintenant, Radiabou de Kindou, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, là, vous écoutez bien?
Oui, ça va avec beaucoup de difficultés, mais essayez quand même d'argumenter, on va voir si c'est possible qu'on puisse évoluer.
Voilà, alors, je voudrais dire c'est
Dommage, Radiabou, qu'on ne peut pas aller plus loin, pourtant vous êtes dans la province qui est concernée par la mesure hein, d'interdiction des captures des perroquets, on aurait eu votre témoignage, mais là, le téléphone pose des problèmes. Nous allons à Kisangani, Makassi, bonjour. Makassi, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Joyce.
Voilà, on vous écoute, on tend vers la fin de cette émission. Vous avez suivi plusieurs propositions, des pistes et des solutions pour arriver à une efficace protection des espèces rares. Quelle est votre contribution?
Oui, j'ai dit ceci. Il ne faut pas toujours diaboliser la RDC pour dire que la RDC doit faire ceci. Il faut aussi parler avec les Occidentaux. C'est là qu'ils achètent, par exemple, les points d'ivoire. Vous savez, s'ils ferment les marchés et ils disent qu'ils ne font plus acheter, je ne pense pas que les gens prendront encore les ivoires pour les amener et tuer les éléphants. Parce que ce n'est pas pour des points d'ivoire, là, pour des statuettes qu'on fabrique, qu'on les vend à 2000, 3000, 5000 francs ici à Kisangani, qu'on peut abattre un éléphant. C'est parce qu'il y a un marché alléchant en Europe, en Chine notamment. Donc, qu'on interdise ces gens-là d'acheter. Et même s'ils disent aujourd'hui qu'ils ne vont plus acheter, je ne pense pas qu'on va abattre nos espèces rares. C'est ça, il ne faut toujours pas dire la RDC. Il faut aussi la communauté s'implique pour dire que non, nous, fini, on n'achète plus les points d'ivoire. Comme ça, nos espèces rares seront protégées.
Voilà, merci beaucoup Maka, c'est important ce que vous avez dit, parce que aussi longtemps qu'il y aura des consommateurs, ce qui veut dire que les producteurs vont continuer à travailler, à produire, si on interdit la commercialisation au niveau au niveau de la communauté internationale, il y a aussi des mesures, vous savez, en ce qui concerne l'ivoire, il y a un marché clandestin jusqu'en Chine, que ce soit aussi les camps de rhinocéros, il y a des mesures qui existent aussi sur le plan international en ce qui concerne l'ivoire. Mais il y a ces marchés clandestins parallèles qui nourrit encore, n'est-ce pas, ceux qui sont dans le braconnage. Mais vous souhaitez qu'il y ait des mesures fortes au niveau de la communauté internationale en interdisant l'achat, la commercialisation. Comme ça, on peut remonter jusqu'au niveau de la production. Ça peut être plus efficace. Merci beaucoup, Makassi, de cette proposition. Nous avons encore quelques auditeurs qui ont déposé le commentaire sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Bakari Loukoubé Balous dit ceci, il faudrait que le gouvernement prenne des mesures efficaces pour assurer la protection de ces espèces qui sont en danger, soit en créant des parcs qui sont mieux sécurisés, contrôlés, soit en attrapant tous ceux qui, en arrêtant tous ceux qui violent la loi et qu'ils soient punis d'une manière spectaculaire. Doukouré Douve dit ceci, il faut seulement lutter contre la corruption, surtout parce qu'au Congo, ceux qui prennent les décisions, ce sont les mêmes qui tombent dans le trafic d'influence et qui vont à l'encontre de ces mesures qu'ils ont prises eux-mêmes. Et là, ça devient difficile de pouvoir agir d'une manière plus efficace sur terrain. 081-890-43-39, c'est le numéro d'appel pour les deux derniers auditeurs qui vont intervenir dans cette émission. Je rappelle encore que nous avons consacré à la conservation de la nature les mesures efficaces pour pouvoir lutter contre l'extinction, le braconnage des espèces rares. Jean-Claude, vous êtes à Kindu, au Maniema. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute. Notre information est partie de la province du Maniema où le ministre provincial de l'Environnement a interdit la capture des perroquets. Dites-nous, sur terrain, est-ce que les gens respectent cette mesure ou vous avez encore des perroquets qui sont en circulation au marché?
Oui, bien entendu Pierrot. Vous savez, le problème c'est quoi? C'est pas de décision, mais moi je pense que cette décision n'aura pas de effet parce que moi, je me trouve à Kim, où je connais, il y a même tout un quartier où les gens nous arrivent de Kinshasa, de Mbandaka, qui sont en train de faire au moins le marché de ce quartier. Et le ministre, aussi, il est au courant de tout ça, parce que dans les chefs dans des antennes de notre histoire, nous, en tant que vraiment.
Sûrement, Kindu, la ligne avec Kindu pose problème. Et pourtant, Jean-Claude venait de nous dire, pour lui, il est sceptique, il ne pense pas que cette mesure pourra avoir des faits, parce qu'il y a des gens qui viennent de Kinshasa, des Mbandaka, qui habitent dans des quartiers où les quartiers qui sont connus et réputés pour la vente des perroquets. Et le ministre connaît, il croit que dans ces conditions, ça sera difficile que la mesure puisse être efficace et porter des fruits. Mais là, la ligne pose problème avec Kindu. Nous retournons à Likasi où nous étions en début de cette émission. Delphin, vous êtes avec nous, bonjour. Il serait mieux.
Bonjour.
Oui, Delphin, si vous pouvez arrêter carrément votre poste récepteur, hein, sinon là on aura beaucoup de difficultés pour communiquer. Arrêtez carrément votre poste récepteur, Delphin, et comme ça on va communiquer directement à travers le téléphone portable, oui. On vous écoute, Delphin, c'est bien fait, on vous écoute.
Merci beaucoup, monsieur. Je crois que moi, je suis depuis Kassi, monsieur Delphin. Je veux juste intervenir dans cette transmission pour dire que les arrêtés, c'est bien quand les ministres nous promettent ou bien nous arrêtent certaines mesures interdisant la capture ou bien la capture de certains animaux domestiques ou les animaux dans certains parcs, c'est bien, mais le problème c'est que les mêmes ministres qui arrêtent les mesures là-bas, les mêmes ministres là-bas trafiquent aussi l'influence et je crois que cette histoire là-bas doit commencer d'abord par hiérarchie, doit commencer par les autorités et afin que ça puisse aussi retomber dans la population.
Merci beaucoup Delphin. Je crois que c'est beaucoup de gens sont revenus hein, par rapport à, au trafic d'influence. Les autorités qui prennent des mesures, ils doivent vraiment rester liés à ces mesures pour ne pas les contourner, surtout en ce qui concerne la protection des espèces rares. Vous avez été très nombreux à contribuer dans cette émission consacrée bien sûr à l'environnement. Beaucoup d'auditeurs à travers le pays, beaucoup de propositions partant de la sensibilisation de la population sur la protection de l'environnement, la vulgarisation des textes juridiques, l'encadrement des gardes-parcs, la lutte contre la corruption dans les secteurs, voilà autant de mesures, mais aussi l'implication de la communauté internationale, comme l'a dit notre ami Makasi de Kisangani, pour lutter contre ceux qui achètent ces espèces rares qui sont bien sûr chassées, si je peux dire ainsi, qui sont victimes des braconnages au pays. Nous vous disons merci, vous avez été très nombreux à contribuer dans cette émission. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion d'associer à cet échange l'ISSN compte tenu des difficultés des lignes téléphoniques, mais du moins, plusieurs propositions nous ont été utiles de tous nos auditeurs à travers les pays. Merci à tous.
Allô? Mais, ils ne répondent pas?
Le prochain rendez-vous avec Parole aux auditeurs, c'est demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine. Les léopards locaux de la RDC reçoivent leurs homologues camerounais ce vendredi 30 août au stade des tout-puissants Mazembe à Lubumbashi au Katanga en match des barrages retour. Les matchs comptant pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN Afrique du Sud 2014. Rappelons qu'au match aller le lundi dernier, les Congolais s'étaient imposés sur le score d'un but à zéro au Cameroun. Que proposez-vous pour assurer aux léopards la qualification et avoir des bons résultats en phase finale du prochain CHAN? On se retrouve demain à 11h03 heure de Kinshasa. Nous disons merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. Titim Poutou, Nadine Foula, Dieudonné Nyangassa qui ont été à la réalisation. Nicole Ngaka l'a supervisé. Pierrot et la Meiji vous l'a présenté. Mais l'émission est sur www.radiocapi.net, mais aussi en rediffusion à 20h03 heure de Kinshasa. Au revoir et surtout bonne journée en compagnie de Radio Capi.